Radio Recyclerie, un espace sonore où vibrent les écologies. Et si les inégalités environnementales devenaient un ressort de mobilisation? Dans leur livre « Comment bifurquer », le sociologue Razmik Kecheyan et l'économiste Cédric Durand posent les piliers d'un programme de planification écologique, synonyme de progrès démocratique et de justice sociale. Qu'on l'appelle transition, rupture ou bifurcation écologique, le changement de société doit s'enclencher en profondeur pour faire face à l'emballement climatique et au mirage de la croissance verte.
Alors l'impasse actuelle, quelle est-elle? C'est une impasse du point de vue de la croissance et de son rapport à l'environnement.
Ces deux auteurs s'appuient sur des expériences démocratiques et écologiques concrètes afin d'embarquer le plus grand nombre dans cette bifurcation.
Si on arrive à convaincre ces classes populaires qu'elles sont en quelque sorte aux premières loges des effets catastrophiques du changement climatique, on pourra peut-être par là même trouver un ressort pour les faire adhérer à un projet de bifurcation écologique.
Cet épisode parle d'utopie institutionnelle, de décroissance matérielle, de dépassement du capitalisme et de bifurcation durable et juste.
Bienvenue à toutes et tous. Vous êtes à la Recyclerie. La Recyclerie, c'est un lieu qui existe depuis 2014. On fête nos 10 ans cette année. Ça y est, on a plus de dents de lait. Et notre lieu a vocation à accompagner la transition écologique en proposant des façons heureuses de vivre et de penser une vie à l'intérieur des limites planétaires. On essaie de vraiment travailler sur les deux tableaux, vivre et penser. On n'essaye pas d'être exclusivement dans de l'éditorial et de la réflexion. On essaye aussi de proposer plein de choses qui sont très concrètes. On est donc un tiers lieu avec de multiples usages, de multiples raisons de venir. Ici, vous pourrez trouver derrière vous un atelier de réparation qui vous permettra de réparer vous-même ou, si vous n'avez pas trop la main bricoleuse, de pouvoir faire appel à Moulou de notre réparateur et de pouvoir, en étant adhérent, eh bien, ne payer que les pièces parce qu'en fait, c'est l'activité de restauration ici qui finance le salaire de Moulou et qui vous permettra de réparer un micro-ondes, une cafetière ou quoi que ce soit et donc de faire allier fin du monde et fin du mois. Vous pourrez aussi déposer votre compost, vous pourriez faire des événements à notre potager pour apprendre et reconnecter avec le vivant et la culture de la terre. Vous pouvez assister à environ 300 événements par an, tous gratuits autour de la transition écologique et de la vie à l'intérieur des limites planétaires, parfois pour réfléchir, parfois pour agir, parfois pour simplement vivre. On a vraiment tout niveau de degré d'investissement. On travaille en piment, donc si vous voyez des événements à la Recyclerie, vous verrez qu'il y a des événements un piment, c'est de l'écologie toute douce. On a un marché de sable vintage, et ben ça pique pas et on fait de l'écologie sans s'en rendre compte. Et puis il y a des événements trois piments. Il vaut mieux aimer manger épicé et on réfléchit un peu plus fort. Voilà, en tout cas, on est très heureux et heureux de vous accueillir. On est très heureux et heureux de continuer ces réflexions avec La Découverte, qui est une maison qui participe à la programmation régulièrement de la Recyclerie, d'accueillir à nouveau Razmik Kecheyan, qui est déjà venu sur notre web radio. D'ailleurs, cet enregistrement sera disponible sur notre web radio, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de replonger dans vos réflexions. Et Cédric Durand pour la première fois. Donc merci à tous les deux d'être là. Je vous souhaite un très bon débat, un très bon moment, et puis au nom de toute la Recyclerie, je vous remercie d'être là.
Bonsoir à toutes et tous, merci d'être là. En effet, on commence par un point plutôt de méthode ou presque d'épistémologie de la planification, puisque on est parti d'Eric Olin-Wright, qui est un auteur qui est publié également aux éditions de La Découverte et qui a écrit il y a quelques années un ouvrage intitulé « Utopie réelle ». Et ce que dit Eric Olin-Wright, donc vous trouverez cet ouvrage en traduction française, c'est que les sciences sociales qu'il appelle émancipatrices doivent se livrer à une description de la réalité sociale existante, mais pour y trouver les germes d'une émancipation. Et donc, il y a une double tâche qui est une tâche descriptive d'un côté et d'autre part une tâche plus utopique de projection dans un futur désirable qui est exactement la tâche des sciences sociales émancipatrices. Alors, il donne plein d'exemples. Il donne l'exemple de Wikipédia, par exemple. Il donne l'exemple d'entreprises récupérées, ce genre de choses, des coopératives, des exemples relativement classiques ou novateurs. Nous, on part de cette hypothèse-là, des utopies réelles, mais on change un peu l'échelle de la réflexion. En fait, ce que fait Eric Olin-Wright, c'est s'intéresser à des échelles qui sont relativement micro-sociologiques ou micro-économiques. C'est très intéressant en soi, bien entendu, mais ça pose un problème qui est comment on passe du micro au macro, c'est-à-dire comment on conçoit des utopies qui ne soient pas seulement locales, imaginons des ZAD, imaginons des AMAP, toutes sortes d'expériences qui sont intéressantes et qu'évidemment il faut développer, mais comment on pense la planification écologique à une échelle qui serait d'emblée macro. Donc ça, c'est une première révision qu'on fait au concept d'utopie réelle d'Eric Olin-Wright. Il y en a une deuxième, c'est une dimension très fortement comparatiste dans notre approche. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à nous référer à des expériences passées, présentes, françaises, étrangères, de la planification en régime capitaliste, aussi bien qu'en régime communiste ou non capitaliste, disons. Et donc cette dimension comparatiste, elle nous permet d'enrichir notre concept d'utopie institutionnelle. Ce problème des échelles, c'est un des problèmes centraux, je pense, du bouquin. Et peut-être que tu l'as ressenti à la lecture, ou les lecteurs et lectrices le ressentiront. Il nous semble que l'un des apports de ce concept de planification écologique, c'est d'essayer de poser le problème d'emblée aux échelles requises, qui sont des échelles macro où la transition va pouvoir avoir lieu. Ça renvoie en fait à toute une discussion qu'on a dans plusieurs des chapitres sous des aspects différents, qui est la dynamique de la décentralisation et de la recentralisation permanente, en quoi va consister la planification écologique. En fait, il faut, pour planifier écologiquement, décentraliser dès que possible, autant que possible, mais il y a aussi dans la planification une notion de recentralisation, par exemple autour de la question des investissements écosocialistes, dont parlera peut-être Cédric tout à l'heure, où discuter des investissements à large échelle, bah, c'est à large échelle, ça ne peut pas être à l'échelle d'une AMAP ou à l'échelle d'une ZAD. Et donc, les investissements, la discussion démocratique et écologique sur les investissements requis pour la bifurcation écologique, ça suppose une discussion de grande envergure, de grande ampleur, qui ne peut pas être seulement locale. D'où l'idée d'utopie institutionnelle, à la fois décrire le réel, mais à une échelle macro, et en même temps se projeter dans des utopies, qui nous permettent de réfléchir à la manière dont on va faire bifurquer la société. Voilà quelques éléments de réponse pour entamer la discussion.
Bonsoir à toutes et à tous. Un des éléments qui était très important pour nous, c'était d'essayer d'être réaliste, au maximum réaliste. On avait vraiment souci de prendre la période là où on était, de prendre les problèmes tels qu'ils se posaient de façon très, très concrète, très immédiate, et essayer de discuter le plus largement possible. On vient par nos travaux du secteur des pensées critiques, de l'économie marxiste, etc. Mais on voulait vraiment, avec ce livre, essayer d'élargir l'argumentation pour aller loin. Et un des points, effectivement, qui nous a aidé à faire ça, c'est cette méthode des utopies institutionnelles qui, justement, propose de trouver dans la société telle qu'elle est des points d'appui pour se déployer. Alors, si on a aussi cette volonté d'être réaliste, le livre commence par ça, c'est parce qu'il y a un constat qui est fait. C'est sur l'impasse actuelle. Alors, l'impasse actuelle, quelle est-elle? C'est une impasse du point de vue de la croissance et de son rapport à l'environnement. Si on peut poser l'hypothèse d'une croissance verte, il n'y a aucune indication que la croissance verte ait lieu. Le découplage peut être conçu théoriquement, mais il ne se retrouve pas empiriquement. Il n'y a pas de trace de ceci. Et donc, faire un pari de faire face à la crise écologique à travers cette notion de découplage, ce n'est pas raisonnable. Mais il y a d'autres problèmes qui sont très importants. Un autre problème qui est fondamental, c'est que le capitalisme ne sait pas gérer les pertes. On ne peut pas demander à une entreprise de se fermer elle-même et de payer les coûts de sa fermeture. On ne fait pas de profit avec ça. Donc il y a nécessairement dans la dimension démantèlement quelque chose qui est de l'ordre de la prise en charge par la collectivité et de la décision collective. Donc là, cette idée de socialisation arrive très tôt. Un autre élément, c'est aussi les limites de ce que tu as évoqué sur le retour de l'État industriel. Le retour de l'État industriel, ça s'appuie sur une tradition interventionniste qui a existé dans d'autres périodes du capitalisme, dans l'après-guerre, etc. Mais aujourd'hui, ça a lieu dans un contexte où le néolibéralisme est encore très présent. En particulier, les capitalistes font ce qu'ils veulent, dans le sens où ils investissent ou ils n'investissent pas comme ils le veulent. Donc c'est purement un cadre incitatif. Et dans un cadre purement incitatif, eh bien, la capacité des États à vraiment piloter l'investissement est extrêmement réduite. Donc c'est un peu des points sur lesquels on part en disant, si on prend ça, et ça on peut être assez largement d'accord sur le fait que c'est vraiment des verrous, comment on fait pour traiter ces verrous?
Du coup, Razmig, là, dans ton intervention, tu as parlé que la planification, elle se développe selon un modèle de décentralisation, recentralisation, quelque chose d'assez cyclique. Et c'est quelque chose qui est peut-être assez important, je pense, aussi dans l'ouvrage, c'est que vous montrez que la planification, elle peut être synonyme de progrès démocratique en permettant au plus grand nombre de participer tout simplement à l'élaboration des orientations économiques, des choix d'investissement. Je voulais simplement vous donner l'opportunité de développer un peu ce point.
Oui, un synonyme de planification écologique dans le bouquin, c'est gouvernement par les besoins. Une expression qui a un peu circulé et qui nous semble vraiment juste. Dans le capitalisme, vos besoins, ils sont fortement indexés sur votre pouvoir d'achat. Donc ils sont définis et satisfaits par le marché. Plus vous avez un pouvoir d'achat, plus vous allez pouvoir satisfaire des besoins nombreux, des besoins essentiels, mais aussi des besoins aliénants, polluants, etc. Et à l'inverse, si vous n'avez pas de pouvoir d'achat ou moins de pouvoir d'achat, vous allez pouvoir parfois même pas satisfaire des besoins qui sont essentiels. La planification, elle va contre ce mode de satisfaction des besoins et elle préconise un gouvernement par les besoins, qui est exactement l'inverse, qui consiste d'abord à délibérer démocratiquement sur les besoins, à les définir et à les satisfaire sur le plan de manière démocratique collective, et ensuite, dans un deuxième temps, à mettre l'appareil productif au service d'une satisfaction des besoins qui est démocratiquement décidée. Donc c'est fondamentalement la planification comme gouvernement par les besoins, sachant qu'évidemment cette délibération démocratique sur les besoins, elle s'en remet également à des critères environnementaux. Il n'est évidemment pas question de délibérer démocratiquement sur des besoins et de déboucher sur des besoins qui seraient artificiels, au sens de polluants, aliénants, insoutenables sur le plan des écosystèmes, etc. Donc c'est une délibération démocratique sur les besoins, mais qui est sous contrainte environnementale. Et alors on pourra ensuite développer sur quel type de contrainte environnementale, la dimension juridique que tu évoquais, la dimension de la comptabilité écologique que tu évoquais, etc. Donc c'est véritablement une reprise en main démocratique de la définition et de la satisfaction de nos besoins. Et donc, c'est le fait de ne pas laisser au marché le soin de définir ce que sont nos besoins, par l'entremise de processus comme la publicité, par exemple, ou l'obsolescence. Et donc, véritablement, je pense qu'il y a un message dans le livre, et tu l'as dit, c'est que par l'entremise de la planification écologique, ce qu'on vise aussi, c'est un approfondissement des procédures démocratiques. C'est l'idée que la démocratie s'applique aussi dans le monde matériel, dans la sphère économique, par l'entremise de la délibération démocratique sur les besoins. Donc, en fait, l'entrée par la planification nous permet d'une certaine façon de remettre en question à la fois les structures économiques fondamentales de nos sociétés capitalistes et aussi les structures institutionnelles, politiques de nos sociétés, les démocraties dites représentatives, en disant qu'on ne peut pas se satisfaire dans le cadre de la planification écologique des démocraties parlementaires telles qu'elles existent à l'heure actuelle, en d'autres termes, qu'il faut approfondir à la fois la qualité et l'envergure de la procédure démocratique pour y inclure des éléments de définition des besoins et pour se projeter vers, en effet, des formes de soutenabilité qui sont aussi toujours des formes de justice sociale. Ça, c'est un autre thème du bouquin sur lequel on reviendra, qui est l'idée selon laquelle il n'y aura pas de sobriété, il n'y aura pas de bifurcation écologique si cela n'est pas couplé immédiatement, dès le début, avec des enjeux de justice sociale.
Oui, et alors on a eu des manières complémentaires et une discussion assez riche pour traiter cette question démocratique, puisque évidemment, du point de vue de l'économie, ce n'est pas quelque chose qui est toujours immédiatement et facilement intégré. Le débat en économie sur la démocratie est quand même souvent un peu à la marge de la discussion dans la discipline. Donc ça a donné lieu à plusieurs choses dans le livre. D'abord une réflexion sur l'investissement et la démocratisation de l'investissement, et ensuite une réflexion plus générale sur le cycle de planification et les institutions de la démocratie, ce qu'on appelle la démocratie augmentée. Hein, quel type d'institutions permettent justement de mettre en place ce processus de planification démocratique. Alors peut-être que je vais juste donner quelques éléments sur les débats concernant l'investissement. Là, on s'est appuyé sur une longue tradition. Hein. Le point d'entrée de la discussion qu'on prend, c'est 1991, donc vraiment le point bas hein, de la discussion sur la planification. Et Michel Husson, qui est un économiste que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est disparu il y a quelques années, a écrit un texte qui est un texte vraiment défensif. C'est 21 thèses sur la planification, mais où il essaie de dire, en gros, qu'est-ce qu'il faut retenir, qu'est-ce qu'il doit tenir dans ce moment d'hégémonie absolue de l'idéologie de marché, qu'est-ce qui tient hein, du point de vue de la planification. Et ce qu'il met au centre de ça, il dit fondamentalement, c'est qu'aujourd'hui, c'est le filtre du profit qui décide de la manière dont nos sociétés se projettent dans le futur. Et c'est ça, en fait, la logique d'investissement par les entreprises, par le filtre du profit. Et il dit, c'est cette institution-là qu'il s'agit de remettre en cause et qu'il s'agit de démocratiser, c'est-à-dire de délibérer qualitativement sur les critères d'investissement. Et donc c'est vraiment là-dessus qu'on repart. Alors là, ensuite, on avait plusieurs possibilités. Une des possibilités, ça aurait été d'aller dans les raffinements du modèle, comme on pouvait faire. On a décidé de ne pas faire ça, mais plutôt justement, conformément à la méthode évoquée précédemment, d'aller chercher des exemples de socialisation de l'investissement chez différents auteurs dans différents contextes. On parle de Keynes et de la Première Seconde Guerre mondiale. On va parler du développementalisme en Corée sous un dictateur pro-capitaliste à fond, mais qui va en fait mettre en prison tous ces capitalistes pendant un mois pour leur dire donc soit vous planifiez comme c'est prévu, soit sinon on va saisir vos entreprises. Et qui va mettre en place une forme de socialisation par un État pro-capitaliste avec des formes de propriété privée mais pendant un temps. On va évidemment parler de l'état développeur tel qu'il a existé en France dans la pré-seconde guerre mondiale, qui est un espèce d'état hybride, parce que c'est une concession de la bourgeoisie. Hein, en fait, ça peut être lié de cette façon-là. Et puis un autre état qui est aussi là, différemment, une absence de planification, alors qu'on avait un mouvement ouvrier extrêmement fort, qui était le cas de la Suède. Et où là, on a une forme de démocratie d'entreprise qui va très loin, mais où s'arrête la planification. Et à partir de ces différents paramètres, eh bien, on dit, voilà le genre de dilemme qu'on a. Soit on a des dictatures qui planifient, Hein, soit on a eu de la démocratie économique, mais sans vraiment de planification, avec un marché qui reste, le cas de la Suède. Et puis on a le cas d'Allende, hein, le modèle de planification qui a existé autour de ce qui s'appelle Cybersyne. Peut-être que le nom, vous l'avez déjà entendu. Il y avait cette idée d'une planification cybernétique, hein, qui était un peu utopique, mais il y a juste les prémices, hein, de cette planification qui ont été posées. Et donc on dit, bah voilà, là, il y a peut-être aussi quelque chose. Et donc voilà, de cette manière-là, on pose un peu des institutions qui permettraient de penser la planification.
Un autre aspect aussi de votre modèle de planification écologique, c'est qu'elle est authentiquement écologique, c'est qu'elle s'appuie sur une comptabilité du coût écologique, avec toute une réflexion que vous mobilisez sur le calcul en nature notamment. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ce point de la comptabilité écologique ?
En fait, on a des adversaires dans le livre. On en a plusieurs, mais on en a notamment deux. Un, c'est Christian Gaulier, qui est le pape de la taxe carbone. C'est vraiment quelqu'un qui dirige tout le School of Economics et qui a vraiment développé cet argument de manière extrêmement pédagogique et avec une forme de candeur qui est assez touchante. Mais bon, voilà. On va quand même au fond de la discussion et on montre les apories de ce raisonnement-là. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'argumentation ici, mais je pense que c'est aussi ce qu'on essaie de faire dans le livre. C'est donner des munitions à toutes et tous pour dire, ben voilà, ce qui semble être des bonnes idées. Alors, ça ne veut pas dire que la taxation du carbone ne peut jamais servir à rien. En tout cas, en faire l'alpha et l'oméga de la transition, ça ne fonctionne pas. Je vais vous donner juste deux exemples pour ne pas aller très loin, mais la première raison, c'est que pour changer les comportements, il faut d'abord changer les structures qui permettent de changer, de s'adapter. Typiquement, pour les questions de mobilité, eh bien, faut avoir des alternatives à la voiture pour pouvoir absorber un changement du niveau des prix. Mais c'est vrai aussi pour les entreprises. Hein. Les entreprises, elles fonctionnent avec un certain niveau des prix. Sinon, il se passe ce qui se passe en Allemagne. Hein. L'Allemagne est dans une grande crise industrielle aujourd'hui. Pour quelle raison ? Parce que le prix d'énergie a été brutalement renchéri. Et du coup, c'est la crise, c'est pas la transformation, si vous voulez. Bon, donc ça, c'est un des adversaires qu'on prend vraiment au sérieux. Gaulier, on n'est pas d'accord avec lui, mais on respecte sa volonté d'engager le débat démocratique sur cette question et on va au bout des arguments. Il y a un autre adversaire, alors il ne peut pas se défendre, c'est Hayek. Hein. Et puis on n'est pas les premiers à lui tomber dessus, mais vraiment, on veut rendre justice à quelqu'un d'autre qui est plutôt là, un héros du livre, qui est Otto Neurath, et qui, lui, très tôt, a pris très au sérieux Hayek, a admiré Hayek, a dit « je vais prendre les arguments de Hayek, je vais aller au bout de Hayek et je vais aller plus loin que Hayek ». Je vais aller plus loin que Hayek, c'est-à-dire, je vais reconnaître que Hayek a raison de dire qu'on ne peut pas tout comprendre du monde. On ne peut pas saisir la complexité du social dans sa totalité et de manière centrale le gérer. On ne peut pas saisir la totalité de la nature et la réifier dans des processus rationnels pour le gouverner. Ça, c'est un échec assuré, c'est une chimère. Et c'est dangereux. Mais on ne peut pas non plus se remettre uniquement sur les décisions individuelles. Et donc, aux deux points, au point des décisions d'espace local d'action des individus et au point central, il y a des limites. Et il faut construire des institutions qui prennent en compte ces limites. Et donc, ce que défendait Neurath, c'était l'idée d'une planification délibérative, hein, avec donc des priorités qui seraient décidées démocratiquement, bon, un peu ce qu'on a raconté précédemment. Il y avait plein d'innovations, c'est une personne super, Neurath, des idées, vraiment, il devait se fatiguer lui-même à avoir autant d'idées. Notamment, il avait des silhouettes statistiques, enfin des choses très marrantes. Bon. Donc ça, c'est un héros. Et du coup, on essaye de ramener ces choses-là à ce qui se fait aujourd'hui. On essaye de faire dialoguer ces Gaulier d'un côté, Neurath et Hayek de l'autre, avec des pratiques des chercheurs aujourd'hui qui sont engagés sur ces questions de comment faire la bifurcation. Et les gens qui réfléchissent, il y en a qui réfléchissent, à notre avis, dans le bon sens, et il y en a qui réfléchissent, au contraire, pour empêcher que ça ait lieu. Et ils réfléchissent sur le même terrain. Et un de ces terrains, c'est la comptabilité écologique. Et on discute à la fois au niveau macro et au niveau micro. Il y a vraiment deux manières de voir les choses. Au niveau macro, on va avoir des gens qui vont nous dire il faut comptabiliser les services que rend la nature. Et donc, une forêt, une rivière, ça rend service. Et donc, on peut mettre un prix là-dessus. Et si on l'abîme, on va perdre du capital. Mais ça veut dire qu'on peut comparer toutes les natures. Donc, à notre avis, c'est une aporie. Ça ne va pas. C'est pas à la hauteur. Et puis, on peut avoir quelqu'un d'autre, comme André Vanoli, qui était un comptable de l'INSEE, là aussi disparu récemment, qui défendait l'idée d'un inventaire permanent de la nature. Et c'est l'idée qu'au contraire, on compte en permanence la nature, et puis là, on compte ce que ça coûte de la préserver. On prend ça en compte dans l'activité, hein, et on décide comment on fait, on met les ressources nécessaires pour la préserver. Mais du coup, le postulat de départ, c'est respecter l'intégralité de la nature et des écosystèmes. Et on a aussi cette discussion au niveau des entreprises. Hein. Donc là, bon, je ne vais pas trop dans le détail, mais c'est pour vous donner un peu une idée du fait qu'on essaie de lier ces grands débats historiques ou ces grandes questions classiques avec des recherches plus appliquées qui se font aujourd'hui, à la fois au niveau de la comptabilité d'entreprise, de la comptabilité nationale.
Peut-être juste pour prendre le relais. En fait, le sous-titre du bouquin, c'est les principes de la planification écologique. Donc, il est beaucoup question de principes, évidemment, dans cet ouvrage. C'est un ouvrage macro, il y a une dimension théorique. Mais on s'interroge aussi sur les traductions concrètes dans la vie quotidienne, y compris dans la vie des entreprises, des administrations, des individus, de ces principes. L'une des traductions, c'est la comptabilité écologique que vient d'évoquer Cédric. Une autre traduction qui est très différente en nature, mais qui est aussi une traduction concrète dans la vie quotidienne de ces principes, c'est le droit. C'est les constitutions. En fait, il y a une partie à la fin du livre qui porte sur un mouvement qui a cours depuis une trentaine d'années, dans le monde, qui est le mouvement qu'on appelle le constitutionnalisme vert. Et qui est une manière de faire entrer dans les constitutions les principes, non pas forcément de la planification écologique, mais en tout cas des critères environnementaux. Et par l'introduction de ces principes dans les constitutions, et ensuite par le fait que le droit à différents niveaux juridiques va traduire ces principes-là, eh bien, on a aussi une application concrète des principes de la planification écologique par un autre biais que la comptabilité écologique, mais jusque dans la vie quotidienne des individus. Alors juste pour dire deux mots de ce mouvement, les constitutions, généralement, c'est peu étudié par la gauche et le droit en général, les marxistes en particulier. Il y a évidemment une théorie marxiste du droit et des constitutions, mais bon, c'est un peu une sous-tradition dominée du marxisme qui s'intéresse plutôt à l'économie politique, aux institutions politiques, etc. Mais c'est quelque chose qui nous a paru quand même très important à prendre en considération, parce que par le juridique, des normes peuvent être appliquées et imposées et sanctionnées quand elles ne sont pas respectées de la part, par exemple, des grandes multinationales. Donc ce mouvement du constitutionnalisme vert est quelque chose qui nous a semblé important. Il y a au moins trois types de constitutionnalisme vert. Un premier type de constitutionnalisme, ça consiste à parler des générations futures dans les constitutions. Donc là, c'est très clair, vous évoquez des générations à venir auxquelles il faut transmettre un environnement qui est intact. Un deuxième aspect, c'est le constitutionnalisme vert qui passe par la notion de dignité de la personne. L'idée ici, elle est très simple et intéressante, c'est que la dignité de la personne suppose un environnement intact. En d'autres termes, la dignité de la personne est atteinte si l'environnement est trop dégradé. Et donc c'est par le biais de la notion de dignité de la personne que certaines constitutions en voie de verdissement abordent cette question des critères environnementaux. Et puis troisième type de constitutionnalisme vert, c'est des constitutions qui accordent des droits à la nature. Alors là c'est beaucoup plus radical, c'est des constitutions qu'on appelle écocentriques, donc qui sont pas seulement anthropocentriques mais écocentriques, et qui partent de l'idée qu'une rivière par exemple ou qu'un écosystème peut avoir des droits en tant que droit. Alors, on n'entre pas dans le détail de tout ça, mais tout ça pour vous dire qu'on cherche aussi des canaux pour appliquer concrètement les principes de la planification écologique, à la fois institutionnellement et économiquement et en termes de comptabilité écologique. Donc, il y a, je pense, ce double effort de réfléchir théoriquement dans les principes, mais aussi de trouver des chemins concrets.
Je voulais maintenant revenir sur le modèle à proprement parler de planification écologique que vous esquissez dans le livre. Donc tu as évoqué, Razmig, un petit peu l'idée du gouvernement par les besoins, la centralité de la délibération démocratique. Le modèle que vous pensez, il s'inspire aussi beaucoup de la planification chinoise, des expériences aussi de planification française. Je voulais savoir un petit peu, ou peut-être que vous présentiez le fonctionnement avec les différentes commissions, comment du coup ça s'articule entre recentralisation et décentralisation, les grandes lignes d'élaboration et de mise en œuvre du plan.
Tu veux faire la Chine et je fais la France ou l'inverse? Vas-y. Bon, nous, on s'est intéressé à différentes expériences de planification. Ce n'est pas un livre d'histoire. Hein. On ne fait pas vraiment de compte-rendu détaillé de ça, mais on s'intéresse à l'histoire pour trouver des exemples dans le présent. Alors, je fais la France, si tu veux. L'expérience de planification indicative ou dite concertée à la française, c'est une expérience vraiment... vraiment intéressante. Elle a été conçue et mise en œuvre par Jean Monnet, qui n'était vraiment pas un bolchevique, comme vous le savez, qui était plutôt un homme de droite, mais qui, en quelque sorte, incarne le consensus planificateur de l'époque, qui va jusqu'au gaulliste et même au-delà. Hein. On a bien changé d'époque avec le néolibéralisme. Donc Jean Monnet, il met en place la planification et il invente, avec d'autres de ses collaborateurs, une institution qui nous a beaucoup intéressés et dont on s'est inspiré. Cette institution, c'est les commissions de modernisation. Et nous, on parle de commissions de post-croissance pour adapter cette institution à la situation actuelle. Donc, vous voyez un peu comment on fonctionne. On va puiser des exemples dans l'histoire, mais on les adapte aux conditions du 21e siècle pour essayer de relever les défis du 21e siècle, évidemment. On n'est plus à l'époque productiviste de l'après-guerre où il faut produire à marche forcée pour pouvoir reconstruire le pays. Donc, les commissions de modernisation, c'est des commissions qui réunissent toute la société civile française de l'époque, ou une bonne partie de la société civile de l'époque, pour élaborer le plan. Okay, donc il y a là-dedans des chefs d'entreprise, il y a des syndicalistes, il y a des économistes, il y a des hauts fonctionnaires. Et l'idée, c'est de faire élaborer le plan par les gens qui vont le mettre en œuvre. C'est l'idée de génie de Monnet. C'est l'idée qu'on ne va pas imposer un plan par en haut, même si par en haut, ça marche aussi. Enfin, ce sera en partie imposé par en haut aussi, je veux dire, par la haute fonction publique. Mais on va réunir les gens concernés, on va discuter des besoins par secteur et de manière intersectorielle ou transversale. Ça va donner lieu à une première version du plan qui va ensuite remonter au commissariat au plan et qui, à la fin, va être validée par l'Assemblée nationale. Okay, donc il y a d'abord les commissions de modernisation, ensuite il y a la centralisation, et puis ensuite il y a l'étape législative qui fait que l'Assemblée nationale... Bon. Et donc, d'une certaine manière, c'est des cycles de planification dont l'ancrage est assez démocratique. Quoi. Et alors, évidemment, le problème, c'est que c'est productiviste. Comme toutes les expériences de planification du XXe siècle, fondamentalement, il s'agit de produire à marche forcée, soit pour reconstruire le pays, soit pour créer une économie postcoloniale indépendante, soit, dans le cas de l'Union soviétique, pour rattraper les pays les plus développés. Notre défi aujourd'hui, c'est d'utiliser des institutions comme cette commission, ces commissions de modernisation, mais à des fins de décroissance matérielle ou de post-croissance, c'est-à-dire en rompant avec la centralité du PIB et de sa croissance dans l'organisation de nos économies. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de commission de post-croissance. Il nous semble que cette première phase très démocratique d'appel à la société civile pour élaborer la première version du plan, quitte ensuite évidemment à la modifier, est une manière très, très intéressante et inclusive et non dictatoriale, évidemment, d'opérer. Évidemment, tout ça se fait sous contrainte environnementale, comme toujours, on l'a dit à plusieurs reprises, il ne s'agit pas du tout que, évidemment, ces plans débouchent sur des mesures qui ne sont pas soutenables, qui sont aliénantes, qui sont polluantes, qui ne sont pas compatibles avec les écosystèmes. Ça renvoie à ce que je disais sur les constitutions et sur le droit. Les constitutions et le droit renferment des critères environnementaux dans le cadre desquels ces commissions de post-croissance vont pouvoir opérer, élaborer le plan jusqu'à validation par l'Assemblée nationale. Donc vous voyez que la question démocratique est fondamentalement remise en question par la planification écologique. En fait, on parle de démocratie dans le bouquin, quasiment dans tous les chapitres, parce que fondamentalement, la planification, c'est quelque chose qui doit nous entraîner à remettre en question le fonctionnement des démocraties parlementaires bien malades auxquelles on a affaire à l'heure actuelle. Donc voilà, donc cet exemple de la planification indicative à la française nous semble vraiment porteur d'éléments importants. Encore une fois, ce n'est pas que de la décentralisation, ce n'est pas que un appel à la société civile. Il y a un élément de centralisation à un moment donné, parce qu'évidemment, il faut trancher des désaccords, parce qu'il faut décider dans quoi on va investir et qu'on ne peut pas investir dans tout, etc. Donc il y a bien ce double mouvement de décentralisation et de recentralisation qui est cycliquement mis en œuvre dans la dizaine ou la douzaine de plans français jusque dans les années 90, je crois.
Oui, il y a aussi un autre élément qui est important. Il y a une tension dans la démocratie dans son rapport à la planification. D'un côté, c'est un élargissement de la démocratie, et c'est tout ce qu'on a discuté, dans le sens où on met à portée des citoyens, de la société civile, des objets de décision qui, actuellement, sont monopolisés par les investisseurs. Donc, fondamentalement, là, il y a un élargissement de la démocratie. Mais il y a aussi une forme de contrainte sur la démocratie, qui est que la planification, c'est quelque chose qui projette dans le temps, et dans le temps long, qui engage dans la durée. Et c'est aussi ça le rôle que jouent les règles constitutionnelles. C'est l'idée de se donner collectivement un cadre qui nous permet d'exister sur le temps long, de ne pas être dans des décisions de court terme. Voilà. Donc de réinscrire le temps long dans la politique, c'est aussi quelque chose qui a été perdu, on s'en rend compte je pense toutes et tous, dans la manière de vivre la politique aujourd'hui. Et la planification dans ce sens-là, c'est aussi redonner ce sens du temps long. Alors il y a un autre point qui me semble très important, c'est le rapport à l'expérience chinoise. L'expérience chinoise, qu'est-ce que c'est ? C'est pour nous un peu ce qu'était pour Gramsci les États-Unis. C'est un truc qui est inévitable. C'est là, c'est gigantesque, c'est extraordinaire, ça change la face du monde, c'est inédit. Bon. Et on ne peut pas le pas regarder, on ne peut pas s'interroger sur ce qui s'est passé. Et on ne peut pas, en particulier, s'interroger dessus lorsqu'on travaille sur les questions de planification écologique, sachant qu'il reste des institutions planificatrices dans l'économie chinoise aujourd'hui, même si c'est évidemment une économie capitaliste, etc. En particulier, le point qui nous a intéressé, c'était d'essayer de comprendre quelle était la caractéristique particulière du mode de pilotage de l'économie chinoise qui avait donné lieu à cette trajectoire, ce succès extraordinaire en comparaison internationale. Et la caractéristique singulière, c'est quoi ? C'est en fait l'expérimentation. C'est l'expérimentation. C'est le fait qu'il y avait certes un plan avec des objectifs, mais qu'il y a un mouvement permanent d'expérimentation, de bilan et de diffusion des expérimentations. Alors ça se fait dans une manière qui ne convient pas forcément, même dans beaucoup de cas, de manière pas désirable. On connaît l'impact environnemental du développement chinois, évidemment. On connaît le caractère brutal de la mise au travail dans les usines dortoirs. On connaît, bon, toutes ces choses-là sont vraies. Mais le point qui nous intéresse, c'est pas ça. Le point qui nous intéresse, c'est de se dire comment on fait lorsqu'on a certains objectifs pour les atteindre sans faire des erreurs sur lesquelles on ne peut pas revenir en arrière. Eh bien, le moyen de limiter la casse, de donner de la flexibilité, de permettre de l'innovation, c'est d'avoir des objectifs, mais d'avoir aussi plusieurs espaces d'expérimentation en parallèle et de faire des bilans. Et cette idée d'expérimentation est au cœur aussi du livre. Donc l'idée, la planification, c'est planifier des objectifs, mais c'est aussi laisser l'espace pour que différentes manières de les atteindre soient poursuivies en parallèle et de faire des bilans intermédiaires pour décider dans quelle direction aller. Et donc ça, c'est un des points qui pour nous est très important.
Quand on parle aussi de bifurcation écologique, il y a une question qui est très sensible politiquement, c'est de réfléchir à la sortie du consumérisme, donc à la décroissance, disons, des désirs matériels aussi des citoyens. Et vous l'abordez de façon originale, cette question-là de l'évolution des modes de vie, avec plusieurs exemples et plusieurs réflexions, notamment sur les services publics, donc qui participeraient à redéfinir les besoins, également sur les formes de consommation collective et d'implication dans les choix de production des entreprises, des consommateurs, donc avec cette histoire avec l'application Pinduoduo. Je trouve ça assez intéressant, notamment parce que vous défendez plutôt une vision optimiste en fait du progrès technique, contrairement à ce qu'on peut, pas sur tous les aspects bien sûr, mais contrairement à ce qu'on peut entendre souvent dans les milieux écologistes où c'est plutôt le pessimisme qui domine. Voilà, donc je voulais vous interroger là-dessus.
Alors c'était un gros sujet. Ça, s'il y a eu un gros sujet dans le livre, c'était bien la technologie, le rapport aux technologies et comment équilibrer, évidemment, la conscience qu'on avait de leur caractère en partie aliénant et en grande partie aussi destructeur de l'environnement. Et les données qui s'accumulent sur l'impact du numérique ne vont que renforcer cet argument-là. Et d'un autre côté, l'argument qui est aussi un argument très important en faveur de la planification, qui est de dire qu'on dispose aujourd'hui de nouveaux moyens de connaissance, et que ces nouveaux moyens de connaissance nous permettent, en tant qu'espèce, en tant que société, d'être plus conscients de notre rapport les uns aux autres et de notre rapport à la nature. Et donc, comment tenir ces deux bouts-là ensemble ? Bon. Et donc, la façon dont on l'a tenu ensemble, je vais directement à la conclusion, on pourra rentrer plus dans le détail, mais la conclusion est la suivante. C'est de dire qu'il faut appliquer au numérique les contraintes environnementales qu'on applique au reste. C'est-à-dire se dire, oui, on l'utilise jusqu'à un certain stade, jusqu'à telle quantité de nature, qui est détaillée, qui doit être détaillée, et donc ça signifie prioriser les usages du numérique. Le numérique est utile pour piloter la transition, est utile pour aussi beaucoup d'autres choses, mais ça doit être un usage qui doit être contraint. Et d'ailleurs, ce n'est pas quelque chose qui est complètement en fait, original. On a déjà eu des gouvernements qui sont intervenus pour contraindre les usages du numérique, pour prioriser les usages du numérique. Au moment de la pandémie de Covid-19, eh bien, il y a eu un accord entre Netflix et l'Union européenne pour que Netflix réduise la vitesse de circulation sur sa bande passante pour que le télétravail puisse se développer. Bon. Eh bien, ce type de réflexion sur la priorisation des usages numériques pour faire face à des ressources qui doivent être cantonnées, contingentées, avec une logique de rationnement, bon, eh bien, c'est un peu le point d'équilibre auquel on est arrivé. Alors, deux usages du numérique qu'on évoque. Le premier usage est évidemment très largement en lien avec les enjeux de comptabilité écologique. Si on peut mieux compter la nature et mieux compter les destructions, c'est parce qu'on a des nouveaux moyens de le faire. Un exemple concerne les émissions de méthane. Les émissions de méthane, elles sont déclarées aujourd'hui par les entreprises, mais les données satellitaires permettent de montrer qu'en gros, c'est de 3 à 6 fois plus que ce qui est déclaré. Mais on n'a pas d'autres moyens de le savoir. Donc si on n'a pas ces moyens de traitement quotidien des données avec les surveillances des sites qui se font aujourd'hui par ces technologies-là, bon, voilà, c'est un exemple. L'autre exemple qu'on déploie dans le livre, c'est l'exemple justement autour de l'application Pinduoduo. Et on a pris aussi cette application-là parce qu'on essaye de renverser des choses qui sont fondamentalement détestables et qu'on déteste fondamentalement. Pinduoduo, je pense que c'est le pinacle du consumérisme et de l'aliénation. C'est une application dans laquelle vous emmenez tous vos amis pour consommer avec vous et qui vous laisse addict parce que vos amis vont vous parler dessus, donc vous avez envie de communiquer avec eux. Et au cas où ils ne vous parleraient pas, vous avez des jeux pour être sûr que vous restez bien addict. Et si vous jouez suffisamment, que vous venez suffisamment sur votre jeu, c'est comme les Tamagotchi, vous vous souvenez de ce truc à une époque, il fallait nourrir sa bête. Et bien, si vous avez plus d'avantages. Donc c'est vraiment le truc, c'est hyper consumériste, ça vous oblige à emmener vos amis et c'est hyper addictif. Donc c'est assez détestable. Mais il y a un point qui est très intéressant dans cette histoire de Pinduoduo. c'est que contrairement à Amazon, Amazon il fait le pari de mettre en de comparer l'ensemble des individus avec votre personne et de permettre le matching le plus précis. Pindy Audio, ils font le pari qu'en fait, ça, c'est soumis à plein de biais, que c'est très manipulable et que c'est pas très efficace. Ce qu'il faut, c'est tracer la vie, tracer ce que vous êtes, et vous tracer qui sont vos amis, tracer quelle est votre communauté. Et à partir de cette existence communautaire qui préexiste à votre rapport numérique, faire en sorte de vous faire consommer ensemble avec ceux qui vous ressemblent. Et donc, il y a une logique communautaire qui est là. Alors évidemment, eux, ils le font de manière détestable, mais cette idée d'activer de la consommation collective, qui ne soit pas par la délibération, qui soit par des valeurs, qui soit par des choix collectifs qui pourraient s'inscrire dans ce filtre numérique, c'est un peu la proposition qu'on fait. Une des manières de sortir l'individu de sa consommation, c'est la recyclerie. Et ça, c'est super. Et c'est très important que ça se développe. Mais pour bien des besoins, eh bien, c'est difficile de les satisfaire. Il y a toute une série de biens manufacturés, alors on peut les recycler jusqu'à un certain point, mais toute une série de biens manufacturés qui dépassent ça. Il y a, vous avez peut-être une passion dans le domaine de l'escalade ou de la musique qui vous fait acheter des matériaux qui sont très spécifiques. Et bon, voilà. Eh bien, ça, comment on fait pour le satisfaire? Comment on fait pour consommer collectivement ce genre de choses-là? C'est à ça qu'on a essayé de répondre.
Oui. Juste dans le prolongement. Donc, en gros, la planification écologique, elle se définit aussi par la recherche de consommateurs collectifs, consommatrices collectives. Donc, c'est l'idée de sortir l'individu de son tête-à-tête avec la marchandise ou de sa solitude face à la marchandise et donc de favoriser partout et toujours la construction de figures du consommateur qui soient des consommateurs collectifs. Les AMAP, c'est évidemment un exemple. Les associations de consommateurs qui ont une longue histoire qui remonte au 19e siècle et qui imposent, par exemple, des standards de sécurité, mais aussi des standards écologiques aux producteurs, c'est aussi une manière de faire monter en puissance cette figure du consommateur collectif et qui nous paraît quelque chose de tout à fait central. Tu évoquais les services publics, c'est aussi un exemple de ça. On a été beaucoup influencé par un juriste constitutionnaliste du début du XXe siècle, un certain Léon Duguy, pas très connu je pense, enfin, peut-être qu'il l'est d'ailleurs. C'est l'école de Bordeaux, comme on dit, parce qu'ils étaient basés à Bordeaux, mais on les appelle aussi l'école du service public. Et ils ont toute une théorie de l'État comme coopération de service public. C'est très fascinant. C'est une théorie de l'État alternative à la théorie habituelle de la souveraineté étatique et qui remplace cette théorie de la souveraineté par une théorie de la coopération des services publics et qui dit qu'il y a une civilisation des services publics en quoi se caractérisent les sociétés modernes. Donc le développement constant de services publics nouveaux, c'est le fondement de la théorie des services publics qui sont les siens, et chez Duguy, il y a clairement une référence aux besoins individuels et collectifs que satisfait le service public. Donc c'est aussi un théoricien des besoins, curieusement. Quand on le relit attentivement, cette question des besoins, elle est clairement là. Alors, le service public, on peut l'utiliser au moins de deux manières, qui sont les suivantes. D'abord, le service public, c'est de la satisfaction des besoins hors marché. C'est du calcul en nature, en quelque sorte. Bon, l'État, il sait qu'il a scolarisé, par exemple, si on prend le service public de l'éducation, il a scolarisé par un étang d'élèves. Il ne se dit pas d'abord quel budget j'ai à ma disposition et par conséquent je vais scolariser tant d'enfants. Ce n'est pas une logique budgétaire, comme dirait Michel Husson. C'est une logique des besoins. On part du besoin qui est de scolariser tant d'élèves et ensuite on met les moyens à disposition pour la scolarisation par an de tant d'élèves. Évidemment, les moyens sont toujours insuffisants, inégalitaires, etc. Mais ce qui prédomine dans le service public, c'est une satisfaction des besoins individuels et collectifs qui est de l'ordre du calcul en nature et non pas du marché, en tout cas en France. Et donc ça, évidemment, cette généralisation de cette logique peut passer aussi par le service public, et c'est aussi une manière de parvenir à des formes de planification écologique. Un autre aspect qu'on évoque, c'est que le service public peut servir aussi à l'innovation. Bon, si on veut réparer toujours davantage plutôt que de racheter, c'est-à-dire sortir de la civilisation du jetable, il faudra des réparateurs. Aujourd'hui, c'est très difficile de trouver des réparateurs. Il y a toute une discussion en cours dans les milieux écologistes, mais aussi certains milieux politiques, sur la création d'un service public de la réparation. Donc c'est un service public qui n'existe pas encore, mais qui pourrait être créé sur une base novatrice pour répondre à un besoin nouveau en ce début du XXIe siècle, qui est d'élargir la frontière des services publics pour relever ce défi nouveau qui est de mettre en place de la réparation pour permettre que les gens réparent plutôt que de racheter dès que cela est possible. Donc il y a aussi de l'innovation du côté de la demande, ça c'est ce qu'a présenté Cédric, il y a de l'innovation aussi du côté des services publics, et donc d'une certaine manière la planification écologique c'est tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, mais c'est aussi le développement de logiques qui existent déjà depuis longtemps dans la société, qui sont l'élargissement de la logique des services publics. On ne parle pas d'une société complètement différente de celle qu'on a sous les yeux. Les germes de la planification écologique existent déjà. Après, il y aura des moments de rupture, évidemment, avec la logique du capitalisme, mais ça n'implique pas que tout ce qui existe déjà doit être abandonné et qu'il faut reconstruire sur une sorte de table rase. Il y a des éléments de planification écologique qui sont déjà largement présents dans notre société, et c'est ces éléments qu'il faut radicaliser.
Bah, du coup, la dernière question, je voulais aller un peu sur la question à 1000 euros, comme on dit, c'est celle de comment on peut intégrer la planification écologique dans un programme politique plus général, programme pour être élu éventuellement au niveau national. Donc, comment on peut arriver à présenter ça sous un jour qui soit efficace, tout simplement électoralement, enfin non seulement pour des électeurs, mais aussi du point de vue de la personne qui se présente, tout simplement. Enfin, c'est tout simplement compliqué, de mon point de vue, d'être élu en promettant des choses sur lesquelles on n'est pas tout à fait responsable.
Bah, évidemment, on n'a pas de réponse toute faite là-dessus. Hein. On n'est pas des stratèges électoraux, on n'est pas. On aborde la question dans la conclusion, en disant la clé, c'est qu'il faut un bloc social-écologique. Et la théorie qu'on mobilise de manière très succincte, c'est celle de Palombarini et Amable, sur les différents blocs sociaux. Et on pense qu'il est possible de faire émerger un bloc social de ce type-là. Alors, dans le livre, on ne fait pas le travail. On avait prévu de faire ce travail-là, et puis c'était trop de choses, ça allait trop loin, de regarder un peu quels sont les différents leviers qu'on peut avoir. Par exemple, une des choses qu'on sait, c'est que sur les questions de carbone, en particulier, un certain nombre de travaux montrent qu'il y a une dimension transclasse dans les clivages. C'est-à-dire qu'il y a des capitalistes qui sont très pro-carbone et d'autres qui sont très capitalisme vert. Et il y a des classes populaires qui sont très liées au secteur carboné et d'autres qui le sont moins. Mais la répartition n'est pas égale. Il y a une espèce de biais qui fait que le poids du carbone est plus important du côté des capitalistes qu'il ne serait du côté des salariés. Le problème, c'est comment on fait pour construire faire bouger les lignes à partir de ce clivage-là. Donc ça, c'est une des questions qui est posée dans la littérature, sur laquelle on ne creuse pas, mais où il faut travailler. La petite conclusion qu'on tire, c'est si on a un schéma vraiment brutal, pas du tout en nuance, on peut dire qu'on imagine que la société est divisée en trois blocs. Et on reprend là les travaux de Dumille et Lévy autour de trois blocs. Il y a en gros les financiers qui ont des revenus financiers, c'est des rentiers. Il y a les cadres du public et du privé qui organisent, ont des salaires élevés, des modes de vie confortables. Et puis il y a les classes populaires qui, ouvriers, employés, précaires, etc. Comment se positionnent ces trois groupes par rapport à la transition ? La réalité, c'est que c'est très compliqué. Vous m'avez bien compris, je l'ai dit avant. Mais là, je ne vais pas être compliqué. On va dire de façon simple. De façon simple, eh bien, les classes dominantes ont beaucoup à perdre dans la transition écologique. Pourquoi ? Parce que le capital est massivement investi dans des secteurs qui vont devoir être détruits. Et où non seulement on ne va pas faire de profit, mais on va même désactiver des choses sur lesquelles il était prévu de faire des profits. Donc vraiment, il y a des pertes sèches qui vont être massives. Et donc ça, c'est une force de mobilisation extraordinaire. Il n'y a pas de mystère derrière la mobilisation de l'extrême droite aujourd'hui. Il y a aussi une partie de ces secteurs-là qui sont associés à ce capitalisme carbone. Bon. Par contre, du point de vue de leur propre mode d'existence, eh bien, ce sont les groupes sociaux qui sont le plus à même de se protéger de ça. On a quasiment la situation opposée du côté des classes populaires. Du côté des classes populaires, il y a très peu de moyens de se protéger des dégâts du réchauffement climatique ou de la crise écologique plus généralement. On sait qu'il y a des discriminations qui surajoutent dans cette logique-là. Et pourtant, simultanément, ce sont aussi les couches qui sont les plus exposées au coût de la transition, en termes de problèmes de compétences, de reconfiguration de l'emploi, etc. Et donc là, il y a vraiment un verrou. Et puis au milieu, il y a les cadres qui, en gros, peuvent quand même se protéger au coût d'ajustement, et par ailleurs, ont une visibilité et une perspective d'action qui est la plus grande. Donc du coup, quelle est la seule configuration qui permettrait la transition ? C'est une alliance entre les organisateurs et les classes populaires. Ça veut dire que l'idée que la bifurcation écologique doit être sociale, c'est pas seulement un point de vue normatif sur le fait que c'est juste, c'est aussi un point de vue réaliste. Il n'y a pas de coalition qui existe qui permette la bifurcation écologique si elle n'a pas un contenu qui donne les garanties aux classes populaires qu'elles ne vont pas y perdre. Et donc ça, c'est l'hypothèse sur laquelle on ouvre un peu le livre, mais c'est un verrou, quoi.
Oui, entièrement d'accord, on ne va pas prolonger, on va ouvrir la discussion, mais il est évident que l'application de la planification écologique dans toutes les dimensions évoquées dans le livre suppose un changement de rapport de force à l'échelle de la société française, mais plus généralement, auquel il faut travailler. Il n'est pas question de dire que tout ça est applicable en l'état, il faut véritablement une transformation qui suppose des mouvements sociaux, qui suppose aussi, pourquoi pas, de participer à des élections. Le thème de la planification écologique est plutôt pas venu au départ par l'académie, par les universités, mais plutôt par le politique, et notamment par la France insoumise, qui a remis en circulation le thème de la planification écologique et qui l'a imposé, en quelque sorte, dans le débat public. Donc ça, c'est un bon exemple de la manière dont la politisation de ce thème peut ensuite, d'ailleurs, donner lieu à des travaux plus académiques ou à un aller-retour entre des travaux travaux politiques et des travaux académiques. Et donc, nous, la manière dont on perçoit le livre, c'est que c'est une petite contribution à ces mobilisations et à une discussion qui est en cours aussi bien dans l'université qu'à l'extérieur, dans les mouvements sociaux, etc. Oui, moi, je suis, pour prolonger ce que disait Cédric, moi, je crois beaucoup à l'idée d'inégalité environnementale comme ressort de la mobilisation. C'est-à-dire les classes populaires subissent de plein fouet et vont subir toujours davantage les effets du changement climatique, des catastrophes naturelles, des effondrements de la biodiversité, etc. Et donc si on arrive à convaincre ces classes populaires qu'elles sont en quelque sorte aux premières loges des effets catastrophiques du changement climatique, on pourra peut-être par là même trouver un ressort pour les faire adhérer à un projet de bifurcation écologique qui est exactement, qui est de l'ordre de ce qu'on discute dans ce livre et que d'autres discutent également. Il faut à tout prix réussir à connecter la question de la justice sociale avec la question environnementale, et ça peut notamment passer par la thématique de la planification écologique, encore une fois la thématique de la démocratie, des inégalités, tout ça c'est très présent dans le bouquin. C'est pas juste un livre sur les institutions de la planification abstraitement conçues, sans rapport avec ce qui se passe dans la société contemporaine. On ouvre la discussion, alors je fais circuler le micro si ça vous va.
Bonsoir et merci pour cette présentation. Je voudrais vous détailler un peu ce côté démocratie augmentée pour la planification. La démocratie représentative a beaucoup de défauts et il y a pas mal de chercheurs qui ont développé effectivement des idées de démocratie alternative ou démocratie augmentée. Alors, vous parliez tout à l'heure de Jean Monnet, mais il y a un autre Monnet, Éric Monnet, qui parlait du Conseil européen du crédit pour démocratiser la Banque centrale, ce genre de choses. Moi, je m'interroge sur ce concept. Il y en a d'autres qui travaillent dessus et qui le promeuvent. Je n'ai pas d'idée fixe là-dessus, hein, c'est vraiment pour prolonger la réflexion. Mais si je prends la chose de manière un peu caricaturale, si parmi vos syndicalistes... on a un conseil avec des syndicalistes, des économistes, des hauts fonctionnaires, etc. Parmi vos syndicalistes, vos représentants, c'est la FNSEA qui représente le monde agricole. Parmi vos économistes, c'est Philippe Aguillon et Jean Tirole. Et les hauts fonctionnaires, c'est ceux de Bercy qu'on apprécie beaucoup. Voilà, est-ce que votre planification, de manière dont elle sera pilotée, ce sera souhaitable, désirable? Donc comment on fait pour avoir vraiment un côté démocratique, mais pluraliste, etc.
Très bien. Bon, merci. Une question un peu dans le prolongement de la précédente. La dimension environnementale dans l'institution de planification, elle viendra d'où ? D'où est-ce que viendra la norme environnementale ? Est-ce qu'elle est aussi associée à un processus délibératif ? Ou est-ce que là, il y a une dimension plus autoritaire, en mode, tels sont les faits, on a tel budget carbone, je ne sais pas. Donc, d'où vient la dimension environnementale dans cette planification écologique ?
Oui. En fait, c'est pareil, c'était une intervention sur la continuité de la première intervention à propos du règne des experts potentiels avec la mise en place d'indicateurs, d'objectifs qui doivent être précis pour planifier et comment, oui, ça se goupille avec le besoin démocratique. Merci.
Merci beaucoup pour votre présentation, votre bouquin. Alors, moi, je fais beaucoup d'escalade, donc je me sens très concernée. Et je suis allée m'acheter un nouveau baudrier il n'y a pas longtemps. Et puis, il y avait une autre personne qui cherchait un baudrier fabriqué en France. Et bien, il disait, il n'y en a pas qui sont fabriqués en France. Et donc ça me mène à une question, d'échelle que vous avez peut-être mentionné. C'est peut-être à ça que vous avez fait référence au début. Mais de l'économie qui est extrêmement aujourd'hui mondialisée. Je pense toujours, dans le cadre de ces débats-là, à un artiste qui s'appelle Thomas Twains, et qui a essayé de faire un grille-pain lui-même. Et c'est devenu un objet artistiquement très intéressant, mais qui ne fonctionne pas comme grille-pain. Donc bon, peut-être moi je peux m'en passer d'un grille-pain, mais pas de mon baudrier. Et qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la transition ? Est-ce que ça veut dire que tout le monde, tous les États, doivent tout d'un coup entrer dans la même direction, quoi, parce que au final c'est un peu, moi j'en viens toujours un peu à cette conclusion là, c'est que tout le monde doit aller dans le même sens pour après avoir des échanges de même de matières premières entre les différents pays.
J'avais une question très liée à l'actualité aussi. En fait, on se dit l'Europe c'est un peu le pionnier, le leader par rapport à toutes ces normes environnementales. Mais par rapport à votre idée de démocratie et de repenser les besoins, comment on fait dans l'Union européenne quand on n'a pas une Union européenne politique, mais qui est basée sur l'économie, et où finalement il y a certains domaines dans lesquels c'est l'Union européenne qui va pouvoir trancher et qui ne va pas laisser les États avoir cette liberté d'avoir ce débat démocratique pour pouvoir mettre en place des expérimentations ou des planifications qui iraient dans le sens que les Français souhaitent.
Peut-être que c'est pas mal déjà. Merci beaucoup. Super question. Alors, on va vous décevoir. Hein. Je pense que c'est à peu près sûr. Mais quelques éléments. Alors, d'abord, sur la dimension technique, démocratie, en gros, expergome. Hein. Ça, c'est. Cette idée que, en fait, fondamentalement, il y a dans le processus de planification quelque chose qui est hostile à la pratique quotidienne, parce que ça implique une forme d'éloignement, de prise en compte à distance. Et Neurath était absolument pas naïf là-dessus. Neurath, il dit en fait la démocratie, c'est le combat répété et quotidien de l'expert et de la personne de la rue. Et donc fondamentalement, c'est aussi ce qu'on essaye de faire dans le livre. La planification, une des définitions qu'on en donne, c'est de la politique et du calcul. Donc c'est vraiment ces deux temps en permanence. Et il faut qu'il y ait les deux, ça ne va pas être simple, mais la tension est là, il faut travailler autour de ça, quoi. Parce que de la démocratie sans calcul, c'est du blabla aveugle. Et du calcul sur de la démocratie, c'est effectivement une forme d'autoritarisme et des vies vides de sens. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de pointer cette tension et puis de pas la résoudre, mais de dire qu'il faut essayer de tenir ces deux bouts. Une autre question sur la dimension environnementale. Où est la dimension environnementale dans le modèle ? Elle intervient à deux niveaux. Il y a le premier niveau qui était ce qu'évoquait Razmig tout à l'heure sur la dimension constitutionnelle. Il faut qu'on ait des accords pour le temps long sur le fait de ne pas bousiller la planète. Donc à un moment donné, il faut qu'on se lie collectivement les mains sur cette contrainte-là. Et une fois qu'on s'est lié les mains collectivement sur cette contrainte-là, qu'on en fait un principe juridique qui sera interprété, mais voilà, qui est quelque chose sur lequel on peut asseoir la décision, eh bien on fait rentrer des informations qui permettent de suivre, d'appliquer concrètement cette règle-là. Et dans la hiérarchie qu'on propose, c'est qu'en fait le calcul écologique interviennent de manière première par rapport au calcul économique. C'est-à-dire qu'on définit par le calcul écologique un espace de viabilité pour la sphère économique qu'on répartit en fonction des priorités d'investissement, en fonction des secteurs, des domaines d'activité. Et là, ensuite, on fait un calcul économique pour décider comment on l'utilise de manière la plus efficace possible. Donc il y a cette idée de calcul écologique comme contrainte première, comme contrainte acceptée collectivement, comme contrainte nécessaire, à partir de la qui définit un espace de viabilité pour l'espace économique. C'est cette façon-là dont on le voit. Alors, on rentre un peu plus dans le détail, puisqu'il y a l'histoire de la comptabilité au niveau macro et au niveau local. Au niveau local, on s'appuie sur l'idée d'écosystème. Donc, c'est une on ne va pas compter au niveau macro les fourmis dans les différents jardins. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre de l'échelle. Donc, c'est le troisième point auquel je voulais répondre, c'est la question des différentes échelles. Ça vaut pour la comptabilité. Hein, donc, on s'appuie sur la réflexion d'un groupe qui s'appelle un mode de comptabilité qui s'appelle CARE, qui essaye de réfléchir à comment, au niveau des écosystèmes, tous ceux qui utilisent les écosystèmes doivent avoir un espace de délibération et de contrôle commun pour définir les responsabilités, faire en sorte que voilà, ils soient pas bousillés. Et ça, c'est quelque chose qui se joue au niveau local. Donc, on creuse cette question-là. De l'autre côté, il y a le monde, hein, les chaînes de valeur, l'Europe. Bon, ben, il n'y a pas grand-chose, mais il y a des choses. Il y a des traités internationaux qui existent, qui mettent un peu des contraintes, qui sont des premiers éléments de planification avec des objectifs à long terme. Mais voilà, ça, évidemment, la France, dans son coin, ne va pas résoudre les problèmes de planification. Mais le livre qu'on fait, c'est aussi un livre qui n'est pas... c'est pas un livre franco-français, dans le sens où ce qu'on espère, c'est que de nourrir le débat sur la planification écologique qui a lieu ailleurs, qui a lieu en Allemagne, qui a lieu aux États-Unis, qui a lieu en Amérique latine, qui a lieu en Chine sans doute, même si on a moins accès à ces débats-là. Donc voilà, l'idée, c'est d'essayer de participer à une conversation qui est en train d'émerger. Et pour répondre, dernière chose, à la question du baudrier et des chaînes internationales, c'est justement ça le point qu'on a essayé de mettre en place dans autour de l'espèce de gadget numérique qu'on évoque. Il y a un côté un peu gadget, c'est très spéculatif, mais c'est l'idée qu'il faut pouvoir décider collectivement à l'échelle de petites communautés qui ne sont pas liées par le territoire. La communauté globale des grimpeurs est très sensible à la question écologique. Comment elle peut exprimer ses valeurs autrement que par les firmes qui jouent de cette sensibilité-là, exprimer et avoir des moyens de contrôler. Ça peut être des associations qui notent les trucs, ça peut être... Mais voilà.
Juste quelques éléments pour compléter très, très rapidement. Moi, je suis assez convaincu par un argument qui est donné par le Shift Project. On a des désaccords par ailleurs sur le nucléaire et par Jean Covici en particulier. En fait, il compare la bifurcation écologique avec la Révolution française. Et il dit un pays va prendre une sorte de leadership, généralement un gros pays. Peut-être que les Chinois réfléchissent comme ça en ce moment. Un leadership, et puis ensuite, ce pays va être copié, va être imité, parce que les catastrophes naturelles se multipliant, bah, les autres vont se rendre compte que c'est une bifurcation qui est indispensable à mettre en place. Donc, un peu comme la Révolution française qui survient à un moment et qui ensuite fait l'objet, évidemment, de résistance, puis est imitée, puis ça prend quelques décennies, etc. Il y a peut-être un modèle auquel réfléchir. Et donc, ça suppose que on peut réfléchir à la planification écologique dans des espaces nationaux. Évidemment, il faut que ce soit des espaces nationaux d'une certaine taille, avec une économie d'une certaine taille également, mais donc tout ne doit pas immédiatement toujours être pensé à l'échelle d'un continent comme l'Union européenne, et que donc le fait que vous évoquiez, à savoir les résistances dans l'Europe néolibérale, dont l'ADN en quelque sorte est néolibéral, et donc on conçoit très difficilement que la planification écologique en son sein soit autre chose que cosmétique, bah, ça ne nous oblige pas à réfléchir forcément à l'échelle continentale, on peut aussi réfléchir à l'échelle de pays. Donc c'est le modèle de l'émulation ou de l'imitation qui consiste à penser le leadership d'un pays et puis ensuite les autres pays s'engouffrent dans le monde. Il me semble que c'est un modèle en tout cas auquel on peut réfléchir de manière intéressante. Sur la composition des commissions de post-croissance, s'il y a Aguillon et la FNSEA, évidemment ça va être une bataille, hein. On n'a pas dit que ce serait calme. On n'a pas dit que ce ne serait pas une dispute et un débat. Et que, bon. Donc il est évident d'abord que les mouvements sociaux eux-mêmes seraient invités à ces commissions de post-croissance, avec leurs arguments, avec leurs rapports de force. Il est évident que ces commissions de post-croissance, ce serait aussi... les délibérations prendraient place sous la pression des mouvements sociaux, d'une certaine manière. On peut souhaiter, évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut un rapport de force politique où il y ait des mouvements sociaux qui s'expriment et qui font une pression, qui exercent une pression sur ces commissions de post-croissance. S'il n'y a pas les mouvements sociaux, tout ce qu'on a dit là, on peut l'oublier, d'une certaine manière, parce que le rapport de force politique, on ne l'aura pas. Tout ça, ce n'est pas vraiment à froid. Alors, c'est difficilement d'imaginer qu'à froid, demain, on va commencer à faire tout ça et que le préalable ne soit pas une montée en puissance des mobilisations collectives, les marches climat, etc. Voilà, donc on n'est pas seulement dans le design institutionnel à froid. On est aussi, on n'est pas non plus dans le processus révolutionnaire de type révolution russe ou ce genre de choses. On est quelque part entre les deux, quoi. Et donc dans ces commissions de post-croissance, il n'y aura pas que la FNSEA et Philippe Aguillon. Il y aura toutes sortes d'autres gens dont on est plus proche. Et par ailleurs, pour revenir à l'affaire du droit et des constitutions, et ce sera sous contrainte environnementale, sous contrainte juridique environnementale. Et donc ça suppose que ces commissions ne seront pas entièrement souveraines. Même pas l'Assemblée nationale ne sera pas entièrement souveraine, parce qu'elle opérera, d'ailleurs comme dans nos régimes parlementaires, sous la contrainte de normes constitutionnelles qui ne permettent pas à l'Assemblée nationale de faire n'importe quoi. Ça, c'est déjà ce qui se passe dans les démocraties parlementaires. Et donc, nous, on ajoute à ça une forte dimension environnementale. Sur les normes environnementales, il y a un truc qu'on ne fait pas dans le bouquin, enfin, on le fait indirectement, mais c'est penser à la place des scientifiques dans tout ça. Dominique Bourg, par exemple, le penseur de l'écologie, il a cette idée qui est l'Assemblée du futur, vous en avez peut-être entendu parler, qui est une troisième chambre qui viendrait compléter le Sénat et l'Assemblée nationale. Pour lui, dans l'Assemblée du futur, il y a une portion, je crois que c'est un tiers, de représentants qui sont issus des milieux scientifiques et qui ont voix au chapitre via cette Assemblée du futur en tant que scientifiques. Ils ne sont pas élus, mais ils sont désignés par leurs collègues au titre de compétences qu'ils ont en climatologie, géologie, biologie, etc. Et donc, il a vraiment institutionnalisé la place des scientifiques dans une assemblée qui vient compléter le dispositif de la Ve République. Nous, on n'a pas vraiment été sur ce terrain-là, même si la science, elle est quand même présente via la comptabilité écologique. Elle est présente, mais c'est la science plutôt que les scientifiques, si tu vois la différence.
Ça rebondit un petit peu sur ce qui vient d'être dit, mais si on envisage l'hypothèse d'une mise en œuvre de la bifurcation dans un pays ou dans une région du monde, est-ce que, selon vous, ça peut fonctionner ou pas? Et si oui, est-ce que c'est viable longtemps? Dans un seul pays ou dans une seule région du monde, sans que la bifurcation soit par ailleurs mise en œuvre tout de suite dans le reste du monde. Comment vous envisagez cette situation? Parce qu'il est quand même peu probable que la bifurcation se mette en œuvre tout de suite partout. Donc comment vous envisagez cette discordance entre des endroits où elle serait mise en place et des endroits où elle ne serait pas mise en place, et avec des réactions qu'on peut imaginer?
Plutôt une question sur la démarche de la construction de la discussion. Vous avez fait une présentation brève sur la perspective méthodologique, c'est-à-dire reprendre la réalité et reprendre à partir d'une perspective émancipatrice. Et à partir de là, récupérer un ensemble d'expériences internationales et françaises sur la planification. Donc, il me semble que la motivation quand vous deux on reprend ces expériences, c'était surtout autour de la dimension économique, productive et de consommation. Tandis que dans une perspective de la planification écologique, et le territoire, c'est un élément central. Et dans cette perspective-là, il y a une large tradition de la planification urbaine. C'est-à-dire, la planification urbaine, elle apporte un ensemble de possibilités, d'expériences, soit françaises, soit internationales. D'abord, sur la discussion du rapport décentralisation-centralisation, c'est une question clé dans la configuration du plan. Et ça pose la question aussi de la démocratie, c'est-à-dire la confection du plan urbain, un ensemble d'expériences, pose toujours la question de comment confectionner les plans, c'est-à-dire la démocratie consultative, la démocratie délibérative, donc là, la question classique. Donc, d'abord, il y a un constitutionnalisme urbain, comme vous avez dit, c'était très important pour définir des principes pour la planification urbaine. Donc, la question que je pose, pourquoi la planification urbaine qui se remet à la dimension territoriale, qui se remet à une question des services, des équipements collectifs très importantes dans le dessin de la planification urbaine, elle est ausente de la construction même de la démarche que vous proposez. Deuxième question très, très simple. Du point de vue politique, vous avez fait beaucoup de références, mais je pose la question d'une façon brutale. La bifurcation et la planification écologique, ça se pose dans un projet d'un réformisme radical ou ça se pose dans un projet révolutionnaire, c'est-à-dire de rupture avec le capitalisme?
Bonsoir, merci pour votre présentation. Je suis utilisatrice de la recyclerie et pas économiste, donc mes questions sont peut-être plus basiques. Je suis d'accord, il faut un accord à tous les niveaux, que le point de départ devrait être d'arrêter de détruire la planète. Aujourd'hui, je n'ai pas entendu un seul pays qui s'avance dans cette direction-là. J'entends beaucoup de pays qui veulent protéger la planète en continuant le modèle de consommation actuel. Donc pour moi, ça ne marche pas. Est-ce que vous avez connaissance, espoir, une lueur quelque part dans quelques pays que ce soit, parce que c'est pour l'instant pas la France et certainement pas demain les États-Unis qui vont aller dans ce sens-là. Et ma deuxième question, c'est peut-être juste pour m'aider quand mes amis me posent la question. Clairement, aujourd'hui, si nous, les individus, on se met à consommer moins, du coup, on dépense moins, on consomme moins et le modèle ne fonctionne pas, les entreprises ne se font pas d'argent et des gens perdent leur travail. Donc en effet, là, la planification me paraît importante pour trouver comment on peut consommer moins de façon planifiée pour arrêter de détruire la planète. Mais ça, c'est peut-être juste moi qui ne sais pas. Est-ce que vous avez une réponse un peu brève que je peux donner à mes amis à qu'est-ce qu'on fait de tous ces emplois quand on va tous consommer moins ? Ou racheter des trucs de personnes qui n'utilisent plus leurs trucs. Enfin, voilà, tous les modèles qui se mettent en place pour qu'on arrête d'acheter autant ou même d'acheter neuf. Qu'est-ce qui va arriver aux emplois des personnes qui, aujourd'hui, produisent des choses?
Merci pour ces super questions. Oui, alors, le pays. Dans quel pays? Alors, je pense que le pays le plus progressiste au monde, c'est difficile à dire, il y a beaucoup de dimensions et tout ça, mais c'est le Vatican aujourd'hui. Voilà. Alors, évidemment, ce que je veux dire, que je précise tout de suite, c'est en fait, je fais référence sur le plan environnemental aux encycliques qui ont été sorties par François, qui étaient relativement progressistes. Évidemment, c'est une boutade. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a certains pays qui atteignent leurs objectifs. Non, mais revenez, remettez-vous, c'était une boutade. Certains pays atteignent leurs objectifs qui ne sont pas assez ambitieux, mais par exemple, sur le plan des émissions de gaz à effet de serre, la Chine est en avance sur les objectifs qu'elle s'est fixés et les engagements qu'elle a pris au niveau international. Ce qui n'est pas le cas de la France. C'est trop tard. Bon, voilà. Les objectifs ne sont pas assez satisfaisants, ils détruisent l'environnement par ailleurs, mais je veux dire. Bon, voilà. Mais bon, non, il n'y a pas de pays où ça marche, où on peut dire on s'appuie là-dessus, c'est ça notre modèle, et reprenons tous ce drapeau-là et circulons avec. Ça n'existe pas. Malheureusement. Alors par contre, j'ai une réponse à vos amis. Le problème qu'on va avoir, si on s'engage sérieusement comme on devrait le faire dans la bifurcation écologique, c'est pas d'avoir plein de personnes qui sauront pas quoi faire parce qu'on consommera moins, c'est de pas avoir assez de travail par rapport à la rémunération qu'on va pouvoir donner. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de travail à faire. C'est-à-dire qu'en même temps, il va falloir fermer plein de trucs. C'est plein de boulot de fermer des trucs et ça rapporte absolument rien. Et donc, ces gens-là, comment on va faire pour les payer? Donc, eux, ils vont produire des choses qui vont être utiles, mais qui ne se consomment pas, qui pèsent sur la consommation. C'est le désinvestissement, ça coûte autant que l'investissement et ça rapporte rien. Donc, c'est vraiment un gros problème. Et en même temps, il va falloir beaucoup travailler pour justement changer les infrastructures, avoir de nouveaux dispositifs. Donc, le vrai problème, ce n'est pas le problème du chômage. Le problème, ça va être d'une compression de la consommation au niveau agrégé pour pouvoir assumer les coûts à la fois des investissements dans les choses qui sont nécessaires et le coût qui a un coût brut de démanteler ce qui doit être enlevé. Donc ça, c'est vraiment un des points aussi qu'on soulève dans le livre, qui est à mon avis un point très important, qui est aussi une des raisons clés pour lesquelles la question de la justice est essentielle. Hein, parce que si on peut se mobiliser pour une cause, y compris dans un contexte professionnel, de travail, si on peut redonner du sens au travail que l'on a réalisé collectivement en tant que société, ça peut être un ressort. Mais bon, quand même, il va falloir que les inégalités soient beaucoup moindres pour que ce soit acceptable. Donc ça, c'est, je pense, un élément de réponse qui est important. Sur la dimension, un seul pays, c'est ambivalent. Parce qu'en fait, en tous les cas, le pari que font beaucoup, en tout cas que fait la Chine, et tu as fait allusion tout à l'heure à Zmig, c'est qu'en étant en avance sur la dimension de décarbonation, ils sont en train de définir les nouveaux standards pour ce que vont être les biens dans la période qui vient. Et que donc, le pays qui bifurque le premier est finalement celui qui va s'exporter. Que ce soit politiquement, on évoquait le modèle de la Révolution française, mais c'est aussi vrai pour les technologies, les savoir-faire, etc. Donc l'idée que la bifurcation soit purement quelque chose qui nous isolerait, qui nous rendrait moins compétitifs et qui serait... C'est vraiment à courte vue. Hein, c'est vraiment à courte vue. Je pense pas qu'il y ait... Je pense vraiment qu'il y a plutôt une tendance... Il peut y avoir aussi une division du monde autour de ça. Ça peut être aussi un autre scénario. Mais l'idée d'un isolement, j'y crois pas. Je pense qu'il y aura un effet de diffusion sur ceux qui sont les plus créatifs assez fort. Je crois que je vais m'arrêter là. Évidemment, je n'ai pas répondu à tout. Si je voulais vous répondre quelque chose tout à l'heure sur la FNSEA, parce qu'évidemment, c'est agaçant. Alors, il y a deux réponses à ça. Le premier, c'est que c'est le problème de la démocratie. C'est que des fois, on n'est pas d'accord avec les décisions prises démocratiquement. Bon, voilà. Mais il y a un deuxième élément peut-être plus original, c'est de dire que le pari que l'on fait, c'est que s'il y a une densification de la décision, il y aura une densification aussi de l'intelligence collective. C'est que le cadre démocratique est quelque chose qui change, qui en ressort. Hein, l'expérience de l'Assemblée du climat, là, qui avait été mise en place par Macron, qui a donné des conclusions qui l'ont mis en porte-à-faux, est un bon exemple de ça. C'est que si on a quelque chose une densification de la discussion, eh bien, les arguments des uns et des autres n'ont pas le même poids que dans des trucs à courte vue médiés par de l'information en continu.
Juste deux éléments. D'abord, sur la planification urbaine, c'est clairement pas un sujet sur lequel on s'étend, à tort, parce que la planification écologique, sur le plan historique, je pense que le concept apparaît dans les études urbaines. Mais c'est simplement un problème lié à nos compétences respectives en tant qu'économistes et sociologues. On n'est pas des spécialistes des questions urbaines. Mais il est clair que la question que vous soulevez est une question absolument centrale de comment on planifie dans des contextes urbain, l'accès aux services, etc. Il y a un élément qui va un peu dans cette direction-là, c'est la discussion qu'on a sur ce qu'on appelle le fédéralisme écologique. Donc le modèle qu'on propose, c'est le fédéralisme écologique. Et le fédéralisme, l'une des raisons qui nous attire vers le fédéralisme, c'est que c'est un système institutionnel extrêmement souple à la base, qui permet de penser la multiplication des expériences à la base, et puis ensuite, il y a cette dynamique de recentralisation que j'évoquais. On peut très bien imaginer, par exemple, que des ZAD aient la place pour faire de l'expérimentation, et qu'ensuite, des expériences qui sont faites dans ce contexte-là remontent par le biais, par exemple, de la commune, ou par le biais, par exemple, du département, ou par le biais d'une instance de planification quelconque, vers le sommet, et que donc des expérimentations locales de ce type, ou territoriales, pourquoi pas dans un contexte urbain, remonte vers le sommet. Donc, via le fédéralisme, la question des territoires est quand même largement présente, parce que le fédéralisme est un système institutionnel où la souveraineté est ancrée territorialement à une échelle relativement basse, quoi, et donc potentiellement aussi à l'échelle des villes. Mais ce n'est pas un thème qu'on développe dans sa composante fondamentalement urbaine. Est-ce qu'on est des réformistes ou des révolutionnaires ? Tout ce qu'on évoque là, il est possible de le mettre en œuvre dès maintenant... moyennant évidemment les rapports de force politique, mais tout ça converge aussi vers un dépassement du capitalisme. Donc c'est une sorte de programme de transition au sens de Léon Trotsky, s'il y a parmi vous des connaisseurs, qui consiste à partir de l'existant, avoir des mesures transitoires, et ces mesures transitoires, d'une certaine manière, par leur radicalité même, par le fait que ça agrège aussi des coalitions d'acteurs sociaux, va vers des formes de dépassement de la propriété privée, c'est-à-dire vers des formes de propriété collective, de propriété commune, etc. Donc l'horizon est clairement ce qu'on appelait autrefois le socialisme et qu'on appellerait aujourd'hui l'écosocialisme. Donc un dépassement du capitalisme, je pense que c'est... Mais la méthode des utopies institutionnelles nous fait aussi partir du réel tel qu'il existe aujourd'hui, comme critère méthodologique de la réflexion, et donc on part aussi des sociétés capitalistes. Mais on se demande comment les dépasser.
Oui, bonsoir, merci beaucoup pour toutes ces réponses et ces réflexions hyper intéressantes. J'avais une question qui casse peut-être un peu l'ambiance. C'est que vous avez beaucoup parlé de rapport de force, et il me semble qu'aujourd'hui, le rapport de force, il est quand même très, très déséquilibré, et que la répression, notamment armée, est très, très sévère envers la société civile qui essaye de s'emparer des questions que vous évoquez. Les armes et la force sont clairement du côté du capital. Enfin, voilà, j'ai cette question, du coup, très ouverte, de comment établir un rapport de force quand on n'en a pas. Comment on fait concrètement, parce qu'une marche pour le climat ou des pétitions, clairement, dans les rapports qu'il y a de force aujourd'hui, ça, c'est pas suffisant, quoi. Loin de là.
Ouais, je me permets. À plusieurs reprises dans le bouquin, vous discutez de la notion de l'analogie avec l'économie de guerre, entre économie de guerre et planification écologique. Il y a un certain nombre de débats contemporains sur l'idée qu'on pourrait reproduire un modèle d'économie de guerre, ou en tout cas recourir à, par exemple, l'appel à la nation, à la sécurité nationale, pour mobiliser les gens, pour simplement travailler dur dans le cadre d'une transformation écologique, pour envisager également une sorte de mobilisation totale. C'est des débats qui sont très sensibles politiquement, qui ne sont pas forcément évidents à aborder. Et j'ai l'impression que dans le livre, vous oscillez un petit peu parfois. Dire que l'analogie, elle ne peut pas être répliquée entièrement, ça n'a aucun sens. Mais il y a quand même certains traits qui peuvent inspirer la planification écologique.
Excellente réponse.
Peut-être répondre d'abord à la question stratégique, qui est vraiment très difficile. Nous, on fait ce qu'on peut, c'est-à-dire qu'on essaye d'ouvrir un peu l'espace de discussion, de construire l'hégémonie, comme dirait Gramsci, pour qu'il y ait davantage d'espace pour ces mouvements. Les mouvements, comme les soulèvements de la Terre, ont joué un rôle majeur pour signaler le degré d'urgence par le type de mobilisation qu'ils ont choisi de cette question écologique. Et donc, c'est aussi quelque chose qui nous impressionne beaucoup et duquel on est solidaire, etc. Ensuite, on n'a pas de solution tactique extraordinaire. Enfin, je veux dire, même on n'y a même pas vraiment. On n'a pas travaillé dessus aussi, c'est ça. On n'a pas vraiment réfléchi à cette question-là. Mais évidemment, c'est une question essentielle. Moi, je serais un tout petit peu moins pessimiste que vous sur la question du rapport de force. Je pense que la manière dont le rapport de force est médié par la police, par la répression d'État, etc., est extrêmement brutale. Mais le rapport de force idéologique, et en particulier, si on regarde selon les territoires, si on regarde dans les grandes villes, donc c'est quand même les gens qui ont le plus d'argent, le plus de capital symbolique, etc., les causes qui sont défendues ont un espace qui n'est pas du tout marginal. Alors, il y a une répression d'État qui est très forte, mais il y a quand même des espaces qui sont très larges. Donc, voilà, les choses sont en tout cas, sont en mouvement. Je veux dire, ce n'est pas du tout figé. Mais bon, c'est dur. Là, je n'y pas...
Moi, je suis aussi... je suis raisonnablement optimiste. Enfin, je ne suis pas raisonnablement pessimiste. Je pense qu'on a quand même en France, contrairement à d'autres pays d'ailleurs, un rapport de force qui n'est pas négligeable. Il y a des mobilisations collectives très régulières, radicales. Il y a une expression électorale de ces mobilisations aussi. Il y a des réflexions dans tous les sens. Si on reprend en effet l'analogie gramscienne, l'hégémonie chez Gramsci, c'est la force et le consentement. Et ce qu'il dit, c'est que quand le consentement vient à diminuer, la force augmente. Mais donc c'est bien que le consentement diminue. Et donc ça, c'est plutôt un bon signe. Évidemment, la répression, elle est dure, il n'y a aucun doute là-dessus, la répression policière. Ça signifie que d'une certaine manière, dans le contexte de cette crise d'hégémonie qu'on traverse, il y a des ouvertures qui vont être possibles. Et disons, les mobilisations collectives, c'est une chose, parler à la raison des gens, c'est autre chose. Et la réflexion sur la planification écologique, qui consiste à essayer d'esquisser les contours d'un monde futur possible, partant du monde actuel, mais allant vers un au-delà du capitalisme, je pense que c'est quelque chose d'absolument essentiel. Donc la discussion programmatique, la discussion sur les théories, la discussion sur les concepts, c'est très important. y compris de les vulgariser, de les rendre accessibles au plus grand nombre. Et c'est un élément fondamental du rapport de force. Il faut convaincre, en d'autres termes. Et je pense que la discussion sur la planification écologique, elle vise aussi à convaincre. Donc moi, je ne serais pas aussi pessimiste. Je pense que le fait que la force s'exerce de plus en plus brutalement par la police, c'est la mesure de l'absence grandissante de consentement de la population à cet ordre social. Ce qui va nous aider aussi tragiquement, c'est la multiplication des catastrophes naturelles, des canicules, etc., et qui va probablement aider aussi à une certaine prise de conscience et à la recherche d'alternatives au système existant.
Économie de guerre.
Ah oui, économie de guerre. Alors vas-y, t'es pour ou contre ?
Je suis contre l'économie de guerre, si on ne se sent pas assez.
Et les guerres.
Mais l'analogie, en fait, elle tient en partie non. En fait, le contexte de la discussion a été aussi celui d'écologie de guerre qui avait été mobilisé par Pierre Charbonnier au moment de la guerre entre l'attaque de l'Ukraine par la Russie. Et à ce moment-là, il y avait un peu cette idée qu'on allait faire d'une pierre deux coups. On n'avait plus de gaz russe, et en même temps, on avait une dictature en face. Donc c'était super, parce qu'on allait pouvoir, à travers cette mobilisation guerrière pour la démocratie, en même temps, apprendre à se passer du gaz et faire l'effort qu'on n'arrivait pas à se faire autrement. Et ça, on a dit, ça tient pas. Ça tient pas. Pourquoi ? Parce que d'abord, le gaz russe est plus écologique que le gaz américain de la liberté qui est en train d'arriver à la place, et qu'on a réinvesti deux fois plus dans des nouvelles infrastructures qui vont mettre des décennies à être amorties. Donc il y a une espèce d'effet absolument contradictoire. Et puis l'autre effet, c'est que c'est la logique du choc. C'est la logique du choc et pas une logique qui a permis justement le processus de délibération, d'adaptation, et une espèce de défaite qui est au cœur de ça. Quoi. Bon, il y a un autre problème, c'est que nous, on appelle de nos voeux une bifurcation basée sur une mobilisation démocratique. L'économie de guerre, c'est le contraire. C'est on suspend toutes les libertés pour mener la guerre, y compris dans le domaine économique. Et donc ça va pas. Donc vraiment, ça, c'est un deuxième. Par contre, là où il y a un élément, à mon avis, de rapprochement, c'est l'élément de rapprochement concernant le coût consenti ou accepté, ou en tout cas infligé, en tout cas que la population doit accepter, entre le court terme et le moyen long terme. Ce que j'évoquais tout à l'heure en réponse à votre question sur le travail, c'est vraiment ça, c'est que le coût de la transition est considérable. Le grand mensonge, c'est de dire qu'on va pouvoir, que ça va bien se passer tranquillement, que c'est pas quelque chose de majeur. Non, il y a un coût qui est vraiment très important. Et donc, dans ce contexte-là, la mobilisation démocratique, idéologique, politique est importante pour voir au-delà du court terme, et donc voir collectivement. La planification, c'est aussi Florence Janicatrice qui disait ça, c'est une manière de se projeter ensemble dans le futur. Et donc, cette dimension-là, de regarder au-delà du court terme, est effectivement un élément d'analogie avec une guerre, puisque dans une guerre, il y a effectivement une communauté qui, à un moment donné, se projette au-delà du court terme. Merci beaucoup.
Merci pour ces questions.
Merci Étienne d'avoir introduit, d'avoir été là.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour soutenir Radio Recyclerie, vous pouvez partager l'émission autour de vous, l'évaluer positivement et vous abonner au podcast. Radio Recyclerie met en onde les foisonnantes discussions enregistrées à La Recyclerie, un tiers-lieu engagé situé porte de Clignancourt à Paris. Venez-y pour prolonger les conversations et faire vibrer les écologies.